Voilà, est-ce que l'on s'entend bien? Voilà, hein? Donc merci de m'accueillir dans notre très belle communauté. Merci de me permettre de retrouver le Portel, car je suis arrivé à le Portel quittant mon Roubaix il y a 50 ans, dans quelques mois. Et j'ai habité Quai de la Vierge. Je vois cette magnifique Vierge que, étant de la cathédrale, je connais bien, qui a été faite, si vous ne savez pas, dans un cèdre du Liban à l'occasion du congrès marial de 1938. Voilà. Elle rend visite. Voilà, c'est la visitation. Alors, Pasquier m'a demandé de parler pratiquement sans micro, sans papier, sans chaise, sans filet, sans apéritif. Et ça, je ne sais pas faire. Hein, donc il faudra que je m'appuie sur un certain nombre de choses quand même. Regardez l'humilité de Dieu. Incroyable. Vous vous rendez compte? L'humilité de Dieu. Et le thème que l'on m'a proposé, je ne l'ai pas choisi, on me l'a proposé, mais j'ai accepté avec grand cœur, c'est bien sûr la force dans la faiblesse. C'est des termes ambigus. Il faut les lire dans une perspective biblique. C'est comme la richesse et la pauvreté. Je suis riche. Quand est-ce que je suis riche? Quand j'ai un cœur de pauvre. Peut-on dire « je suis fort » quand j'ai un cœur de faible? Probablement. Probablement. Alors je voudrais tout simplement, tout de suite, Jacqueline est là, oui je vois, rendre hommage à Charline Leroy. Charline Leroy, c'est une personne handicapée de l'Arche qui est décédée la semaine dernière. Et dans 2 heures, très exactement, la communauté de l'Arche, donc quand je parle de l'Arche, c'est la communauté des personnes handicapées qui se trouve à Ambleteuse, à 15 km d'ici, la communauté de l'Arche va se rassembler pour la mémoire de Charline. Charline, je ne l'ai pas très connue, tu comptes fait, je l'ai connue un peu à l'Arche. Je l'ai surtout connue à l'EHPAD Saint-Augustin, où je fais office d'aumônier. C'est une femme un petit peu en retrait, qui longeait les murs, qui criait beaucoup. Donc, en tant qu'homme, j'ai eu du mal à rentrer dans son personnage. Mais si je vous parle de ce temps de prière tout à l'heure, et je regrette de ne pas y être, mais je suis encore plus heureux d'être avec vous, c'est que j'imagine que tous ses amis handicapés vont lui trouver des qualités avec leur sensibilité, leur ADN particulier. Ils vont lui trouver des qualités, ils vont faire la fête, j'imagine, à travers la prière, de ce personnage que moi, homme, j'ai eu du mal à approcher. Est-ce que je me trompe, Jacqueline? Je me trompe pas, hein? Hein? Si tu pouvais raconter son histoire. Voilà, c'est l'âge qui parle. C'est la faiblesse qui parle. Et quand on dit la force dans la faiblesse, voilà, la force vient des paroles de Jacqueline. Voilà. Et ça, c'est important de l'entendre. Voilà. Merci, Jacqueline. Je suis marqué aussi par une expérience extraordinaire que j'ai faite il y a 15 jours, puisque je reviens de Lourdes. J'avais pas du tout envie d'y aller, je ne vais jamais à Lourdes au mois d'août, mais j'ai reçu un appel, comme quoi il manquait des hospitaliers, et notamment des hospitaliers pour accompagner les malades dans le bus la nuit pour aller à Lourdes. Et c'est le premier pèlerinage de Lourdes diocésain depuis 2 ans. J'ai dit oui. Tu reviens bouleversé. Comment se fait-il qu'à mon âge, bientôt 72 ans, je trouve encore, mais je suis émerveillé, hein, une telle richesse au pied de ces malades, mal foutus, tordus, avec des ulcères partout. L'Évangile est vraiment une très très bonne nouvelle. Hein? J'ai en mémoire bien sûr ce chapitre 13 de Saint Jean, le lavement des pieds. et au verset 16, « Et si tu fais cela, tu trouveras le bonheur. »
Ben oui, on l'a trouvé, mais c'est incroyable.
Alors, j'ai vu des personnes à Lourdes, je vous vois aussi, et je me dis quelque part, qui suis-je ? Qui suis-je ? J'ai une tête, j'ai un corps, j'ai deux bras, deux jambes, un cœur, des talents. C'est Jean-Marie. Mais quand je regarde Chantal, et je la connais bien Chantal, elle a une tête, un corps, deux bras, deux jambes, un cœur, des talents, c'est Chantal. Quand je regarde Philomène, elle nous a quittés, Philomène.
Ouais.
Ben, bonjour Marie, sa maman. Quand je vois Philomène, une tête, un corps, deux bras, deux jambes, un cœur, des talents. Mais on est tous comme ça, tous. Mais je suis convaincu, et nous pouvons être tous convaincus, et je parle en mon nom, je suis né de l'amour de Dieu. Par le biais de mes parents, Dieu m'a fait naître. Dieu a mis en moi des talents. Dieu a un projet pour moi. Ça, j'en suis convaincu. Et je suis encore plus convaincu qu'à ma mort, je retournerai à cet amour de Dieu. Ma vie a un sens. Je viens de l'amour de Dieu et je retourne à Dieu. La question, c'est que je vais vivre pendant 70, 80, 90 ans, que sais-je ? Qu'est-ce que je fais de ma vie ? Qu'est-ce que je fais de ma vie ? Et qui suis-je dans mes interrogations ? Et parfois je me mets à rêver et je me dis « Ah si j'étais fort, ah si j'étais bien, ah si j'étais mieux, ah si j'étais plus parfait, ah si j'étais plus chrétien, ah si je savais partager telle et telle chose. » Oui, je me mets à rêver. Parce que le critère de la société qui m'a façonné, c'est qu'il faut être fort. Et on m'a appris, toute ma vie, qu'il fallait être fort. Fort en maths, fort en physique, fort en anglais, fort en communication, fort en Bible, que sais-je. C'est le critère qui me vient en mémoire. C'est terrible. Même aux Jeux Olympiques, toujours plus fort, plus haut, il y en a même un troisième, toujours plus vite, plus fort, plus haut. Voilà, il est donc difficile d'accueillir ses faiblesses. Je rêve, et j'aimerais être autrement, mieux, parfait. L'Église m'a dit aussi que je devais être parfait, que je devais être parfait dans mon couple. Aïe! Mais quand on n'est pas parfait dans un couple, il y a le sacrement des malades après-demain à Boulogne, et puis il y a un divorcé remarié qui m'a demandé « Est-ce que je peux recevoir le sacrement des malades ?» J'en ai parlé au curé. Voilà. Il n'était pas parfait aux yeux de l'Église. Alors il y a cette tyrannie de la conscience. Il y a une tyrannie de « il faut être fort » et tout compte fait, on est des gens quelconques. Parfois on a du mal à vivre. On peut même jalouser la vie des autres en disant « lui il est bien ». Et dans ce cas-là, on le critique, un coup de patte. Les stars, je dis à mes enfants, à mes petits-enfants, très très souvent, on est tous des faibles. Quand je vois les chefs d'entreprise qui tombent dans le burn-out, quand je vois des vedettes, des sportifs tomber dans la dépression, quand je vois Jean Vanier, qui était adulé, on l'avait déjà pris pour un saint. Oui, on est tous des faibles. Et il faut en être conscient. Alors cette tension entre ce que je suis et ce que je voudrais être est une tension normale. Je ne suis pas malheureux, hein. Je suis très très joyeux parce que ma source de la vie c'est le Christ. Mais cette tension existe. Et permettez-moi de penser, et il y en a dans cette salle, aux mamans qui ont mis au monde des enfants handicapés. C'est un drame. C'est inacceptable. C'est un scandale. Elles ont cela comme poids jusqu'à leur mort. Elles se sentent coupables. Les mamans me disent « Ah, si les gens normaux savaient ce que veut dire mettre au monde un enfant handicapé. » Il n'y a pas que cela. Hein. Ces mêmes personnes diront aussi « Ma fille handicapée, mon enfant handicapé a bouleversé ma vie. » Oui, ils diront ça aussi. À l'Arche, quand on célèbre un décès, et que dans la petite chapelle de l'Arche, à l'époque où on pouvait le faire, rassembler toute la communauté et les parents, je voyais se lever les vieux parents, et puis tout pleurant, dire « Ma vie, ma fille a été un cadeau. » Oui. Quelqu'un, en parlant d'un enfant trisomique, disait « Les enfants trisomiques sont des cadeaux, mais que je ne souhaite à personne. » Parce que bien évidemment, ça dérange. Bien évidemment, ça crée de la souffrance. Voilà, on peut citer les stars, on peut citer les vedettes chrétiennes, pour les plus anciens d'entre nous, le père Duval, Sœur Sourire, etc. Ils sont tous tombés dans l'alcool et dans la drogue, donc on est tous des faibles. Mais alors qu'on veut devenir fort, beau, parfait aux yeux des autres, je reviens à Lourdes. Et je me souviens de cette prière au 5e étage de l'hospitalité de Lourdes, c'est la chapelle Saint-Pierre, elle est toute belle, elle est vraiment intime. Et j'avais devant moi Matthieu. Je ne sais pas si vous connaissez la masse de Samé. La masse de Samé, c'est à 15 km d'ici. Il y a des gens terriblement handicapés. Il y en a qui sont bien connus. Jean-Louis. Alors Jean-Louis, si vous avez vu le film sur le film qui s'appelle Lourdes, Hospitalité de Lourdes, Lourdes, magnifique, il y a Jean-Louis qui parle à la fin, et bien qu'il ne parle pas beaucoup, il dit à la fin « Je vous aime ». Voilà. Mais Matthieu, c'est une personne qui est complètement tordue. Complètement tordue, le corps, les bras, les doigts, la tête, etc. Et il est sur un fauteuil électrique. Alors il est extraordinaire parce qu'avec son pied, il ne peut bouger que le pied. Il fait des manœuvres comme ça, extraordinaires. Et je le voyais dans la chapelle devant moi, nous étions en train de prier. Et je disais, qu'est-ce qu'il est beau. Ah, il avait un sourire. Il a quoi? Il a 25 ans, 30 ans. Donc sa vie, aux yeux des hommes, est foutue. Qu'est-ce qu'il est beau, magnifique. C'est pas évident. Ça nous remet en cause. Parce que je n'ai jamais entendu une personne handicapée revendiquer la perfection. J'ai jamais entendu. Moi, j'ai une fille trisomique. Elle joue. Voilà, à l'escalier. Anne, je pense pas qu'elle ait demandé à devenir chef d'entreprise. Non. Les personnes handicapées ne recherchent pas la perfection. Elles sont comme elles sont. Et là, elles nous font vibrer le cœur, sans aucun doute. Voilà, la faiblesse qui est source de richesse. Merci Matthieu. C'est incroyable. Il y a quelques années, il y a la visite pastorale de l'évêque dans le Boulonnais. Et la conclusion se trouvait aux Tourelles, aux Tourelles à Condette. Et ils avaient ainsi invité Matthieu, puisque la masse, voilà, il y a une permanence chrétienne à la masse. Et Matthieu se promenait comme ça dans les rangs. Tout le monde avait raconté son baratin. Qu'ont retenu les chrétiens? Matthieu. Ils ont été bouleversés par Matthieu. Si je vous parle de la messe télévisée à Notre-Dame de Boulogne, qu'avez-vous retenu? Géraldine. Géraldine qui lit le braille. Voilà. Quand on parle de... Ah oui, il y avait une dame qui lisait le braille. Mais comment se fait-il que la faiblesse puisse autant vibrer, faire vibrer notre cœur? Alors, moi personnellement, dans mon histoire d'homme, de chrétien, je me dis qu'il y a une chose qui est extrêmement belle et qu'on retrouve dans toute la Bible, c'est la bénédiction. Passer de la malédiction à la bénédiction. Bénédiction, ça veut dire du bien. Dire du bien, dire du beau et donner la vie. Vous savez, la première page de la Bible, la Genèse, chapitre 1, Dieu donne la vie et dit que cela était beau. Il bénit. Voilà. Et vous pouvez lire toutes les pages de la Bible, vous avez dans cet esprit la bénédiction. Une confidence. Avec Chantal, voilà, Chantal, mon épouse depuis près de 50 ans, on se bénit tous les matins et on se bénit le soir. C'est relativement nouveau, hein. Ça ne fait pas des années. Chantal le fait régulièrement, normalement on va dire, spontanément, elle est femme. Moi je suis homme, donc je suis un peu plus cérébral, et je sais tous les problèmes que nous avons, toutes les disputes cruelles que nous avons eues. Et bénir, c'est faire passer cet humain à un autre registre, celui d'être enfant de Dieu tout simplement, celui d'être béni par Dieu en permanence. Et moi j'ai un peu plus de mal, mais quelle chance de se bénir tous les matins et tous les soirs. Alors bénédiction, oui, c'est un geste de libération. Et je voudrais vous raconter trois petites histoires de bénédiction. Trois petites histoires de bénédiction où il y a une personne handicapée présente. Je fais partie de la pastorale de la santé et tous les jeudis matins, tous les premiers jeudis matins à l'église Saint-Pierre à Boulogne, il y a une messe. Et pendant la messe, au lieu d'avoir une belle homélie, il y a un enseignement, un petit peu comme ici, qui est donné, qui dure 20-25 minutes. Et il y a 2 mois, l'enseignement a été donné par Bruno Leroy de Calais, qui a été nommé dernièrement délégué de l'évêque pour la pastorale de la santé. Il était venu expliquer ce qu'était la pastorale de la santé. Et la première phrase dans son enseignement, il a dit ceci. Cher ami, j'ai reçu une quinzaine d'années une photo. Une photo de Paris le Monial d'ailleurs, enfin prise à Paris le Monial, où l'on voit un évêque, avec tout son habit d'évêque, à genoux, se faire bénir par une personne handicapée. Il rajoute, cette photo a été envoyée par l'un d'entre vous. Ah, c'était moi. J'avais complètement oublié. Bon, cette photo, je m'en souviens bien. Ça, j'avais complètement oublié que j'avais envoyé cette photo à Bruno, qui est un ami de toujours. Et ça l'avait marqué. Il l'avait laissé dans sa Bible. Et depuis lors, il est devenu diacre. Comment se fait-il que ce renversement de situation, un responsable qui se met à genoux devant une personne faible, puisse faire vibrer notre cœur? La deuxième image que j'ai, et certainement que beaucoup d'entre vous l'ont, c'est toujours à la communauté de l'Arche. Tous les mercredis matins, il y a ou il y avait, avant la pandémie, une messe à 11h15, 11h30, avec le Père David, quand il était en bon état. Et au moment de la communion, bien sûr, les personnes handicapées s'avancent. Et il y a un monsieur handicapé qui s'appelle Serge Magret, cherchez son nom, Serge Magret. Bon, je le connais bien parce que il commence à prendre de l'âge. Mais il dit toujours 2 phrases. La première phrase, c'est bientôt mon anniversaire. Alors tout le monde se réjouit que c'est bientôt son anniversaire. Pas vrai, Jacqueline, hein? Et la deuxième phrase, en me demandant, quand est-ce qu'on va à Lourdes? Bon, voilà. Et quand il reçoit la communion, Mais c'était vraiment impressionnant. Moi, les premières fois, j'étais bouleversé. Le Père David étant devant lui, il commençait à bénir le Père David. Et le Père David, dans son humilité, se laissait faire. Et on était observateur de voir cette bénédiction permanente du Père David par rapport à Serge. Alors quand ça durait trop longtemps, il y a quelqu'un qui venait le chercher et qui le ramenait sur le côté, bien évidemment. Comment se fait-il que moi, homme, mais probablement vous aussi, vous êtes chatouillé au niveau de votre cœur, d'un air de dire, mais là, il y a quelque chose de vrai. On ne sait pas très bien, mais là, il y a quelque chose de vrai. La faiblesse qui nous donne cette force de vivre. Parce qu'en fait, ce sont eux qui nous apprennent à vivre. Et puis la troisième chose, je m'arrêterai, mais j'ai plein d'exemples comme ça. La troisième chose, c'est à Thésée. Pendant 10 ans, je suis allé célébrer Pâques à Thésée. Et on emmenait toujours, Chantal et moi, soit des personnes handicapées, soit des personnes en situation de difficulté. Et cette année-là, on avait pris les responsables de foi et lumière au niveau régional, qui ont une fille terriblement handicapée, c'est-à-dire qu'elle ne marche pas, elle ne parle pas, elle ne bouge pas, voilà, il faut lui donner à manger, elle est en permanence dans son fauteuil. Et à la fin de la célébration, il y a les frères de Thésée qui se mettent dans l'assemblée et qui accueillent les gens qui veulent aller les voir. Et on avait décidé d'aller voir le frère Aloïs, qui est le nouveau prieur de Thésée après frère Roger. Et quand frère Aloïs a vu cette personne s'approcher d'elle, lui aussi, il s'est mis à genoux. Et il a dit à Marie-Aurélie, c'est son prénom, alors va-t'en, hein, « Bénis-moi !» Et on lui dit « Mais non, non, elle ne sait rien faire, elle ne sait rien faire !» Alors, dans un geste très très émouvant, on a pris la main de Marie-Aurélie et puis on a béni frère Aloïs. Les parents s'en souviennent encore, bien sûr. Trois bénédictions où les responsables d'église, les responsables qui sont évêques, prêtres, responsables de communautés religieuses, se mettent à genoux devant des pauvres. Est-ce que c'est normal? C'est inhabituel. Ils se mettent à genoux devant des pauvres et quelque part, on se dit, mais il y a quelque chose qui se vit d'important à ce niveau-là. Trois personnes qui ont du pouvoir, qui ont de l'autorité, se mettent à genoux devant des personnes qui n'ont pas de pouvoir, qui n'ont pas d'autorité, et qui nous disent « c'est peut-être là la vérité ». Alors, bien évidemment, je n'annule pas l'autorité des évêques et des communautés religieuses, bien sûr, hein, mais on voit que il y a des critères de la vie qui sont déplacés lorsqu'on se trouve avec des personnes en situation de fragilité. Tu es beau, tu es bon, tu es bien plus beau que ce que tu peux imaginer. Voilà, quand je bénis Chantal, je lui dis, tu es belle, tu es bonne, tu es bien plus belle que ce que tu peux imaginer. Tout simplement parce qu'on change de registre. On change le registre sociétal à un registre qui est tout simplement de se reconnaître comme enfant de Dieu, fils unique de Dieu, fille unique de Dieu. Et quand je dis unique, c'est unique. Gabriel Planchèze disait beaucoup cette phrase-là. Il ne le dit plus. Alors je lui ai dit un jour, mais je devrais le retenir. Il dit, on dit souvent, je regarde un petit peu ma phrase, nous sommes tous aimés de Dieu. J'ai peut-être plus la bonne formulation. Et il dit, non, c'est pas vrai. Nous sommes chacun aimés comme une personne unique pour qui Jésus a donné sa vie. Moi aussi, je peux dire j'aime tout le monde. Ah ouais, mais quand je dis j'aime tout le monde, j'aime personne en fait, hein, c'est facile, c'est des postures. Mais quand on dit non, Jésus t'aime comme une personne unique, voilà. Et il veut ta beauté, il met en valeur ta beauté, ta bonté. La bénédiction, puisque vous avez bien compris, c'est un petit peu le centre de la journée, et nous terminerons cette journée en se bénissant les uns les autres, les uns après les autres. La bénédiction demande de la proximité. À travers des célébrations de funérailles ou quand je célébrais des célébrations de la parole, ou quand le prêtre vous bénit comme ça dans une assemblée, ok, puis on fait signe de croix, mais ça ne touche pas vraiment énormément. La bénédiction demande beaucoup de proximité, demande beaucoup d'humilité, commande beaucoup de tendresse, de douceur, de... Voilà, pour ça que j'aime beaucoup avec Chantal, parce que c'est une expérience qui est belle. À la messe, à l'Eucharistie, quand la personne croise les bras, ou quand la personne n'a jamais communié, on fait un geste. On peut faire une petite croix, comme ça, rapide. Dimanche, il y a 8 jours, il y a un jeune trisomique qui est venu. Voilà, alors j'ai pris du temps. C'était beau. Enfin, je pense que, en tout cas, pour moi, c'était très beau. Et je lui ai dit, mais Jésus t'aime et te bénit comme une personne unique. Sois heureux, sois dans la joie. Voilà. C'est pas moi qui bénis, hein, c'est Dieu. Hein. Voilà. Mais c'est beau cette proximité, cette humilité, cette douceur. Oui, cette bénédiction nous fait passer des critères de ce monde avec la hiérarchie des valeurs, au registre de la foi, au registre du regard de Dieu. La bénédiction change notre regard. Nous sommes des cadeaux de Dieu. Ah, c'est beau de dire, vous êtes un cadeau de Dieu, vous êtes des merveilles de Dieu. Alors, il faut être concret, hein. Chantal, c'est un cadeau de Dieu, moi je suis un cadeau de Dieu, ben, je peux vous dire que Chantal, c'est pas tous les jours un cadeau pour moi. Ça, c'est clair. Vous voyez, il faut... Voilà. J'aime beaucoup, je fais pas mal d'accueil à la cathédrale, et sur le fronton en latin, c'est marqué 2 fois d'ailleurs, il faut savoir, le psaume 117, ceci est l'œuvre du Seigneur. Et quand vous lisez, quand vous continuez à lire le psaume 117, c'est marqué c'est une merveille. Et ça fait lien à l'évangile, la pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue pierre d'angle, Jésus. Donc c'est Jésus la merveille. Mais à travers Jésus, à travers toutes ces pierres, c'est nous. Et j'aime bien rencontrer des jeunes, bon, je ne sais pas s'ils sont fiancés, des couples, je ne sais pas s'ils sont fiancés, mariés, concubins, j'en sais rien. Et je lui dis à la dame, est-ce que tu sais que tu es une merveille de Dieu ? Ah ! Ah, ça la surprend. Et toi ? Est-ce que tu sais que tu es une merveille de Dieu ? Voilà. Et je vois leur cœur vibrer. Est-ce que vous savez que vous êtes des merveilles de Dieu ? J'ai l'impression qu'il y a les larmes qui arrivent presque quand on dit ça à des gens en proximité, en douceur, en humilité. C'est peut-être des choses qu'ils n'ont jamais entendues. C'est l'introduction au mariage, bien sûr, c'est le signe du mariage. Voilà, donc reconnaître chacun que je suis un enfant aimé de Dieu, une fille de Dieu aimée comme une personne unique. Chacun de nous est béni. Si Dieu arrêtait de nous bénir 3 secondes, parce que tu mourrais immédiatement. Immédiatement. Non mais on se rend compte. Si Dieu venait arrêter de nous bénir pendant 3 secondes, nous mourrions immédiatement. Notre vie prend sa source dans la bénédiction de Dieu, dans cet amour originel. Voilà, notre bénédiction est au cœur de la foi chrétienne. Je voudrais vous lire, parce que c'est très beau et on se le rappellera tout à l'heure. J'ai pas pris mon Ancien Testament parce qu'il est trop gros, pourtant j'ai toujours avec moi. Je vais lire sur la feuille. Vous savez, Abraham. Je dis pas Abraham, je dis Abraham. Parce que Abraham est devenu Abraham lorsqu'il a pu réaliser la promesse de Dieu, à savoir mettre l'enfant unique, Isaac. Voilà. Donc, et Sarai est devenue Sarah lorsqu'elle a pu mettre au monde cet accomplissement de la promesse de Dieu en Isaac et de la descendance. Nous sommes tous des enfants d'Abraham. Et comme lisait la Genèse au chapitre 12, « En ces jours-là, le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père, va vers le pays que je te montrerai. Je te bénirai, je rendrai grand ton nom, tu deviendras une bénédiction, en toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Ça peut être le cœur de notre foi, tout simplement. En ces jours-là, c'est aujourd'hui, bien sûr. Hein, en ces jours-là, c'est aujourd'hui. Quitte ton pays, ta parenté, là où tu ne veux pas aller. Là où tu as du mal, peut-être, à rencontrer des personnes handicapées. Là où tu as du mal à rencontrer l'étranger. Là où tu as du mal à rencontrer le malade, le pauvre. Voilà. Et je te bénirai, tu deviendras bénédiction pour les autres. Il n'y a plus de frontières. Il n'y a plus de frontières. Voilà, c'est beau quand même tout ça. Hein. Alors sur notre chemin, Dieu a mis des personnes handicapées. N'est-ce pas, Marie? C'était totalement inattendu. C'était inattendu pour moi aussi. Quand je suis arrivé à 50 ans au Portel, j'avais quoi, 22 ans? J'imaginais pas que 50 ans plus tard, je serais là ici à parler devant vous. Oui, Dieu a mis sur notre chemin des personnes handicapées tout simplement pour nous apprendre à grandir, pour nous apprendre à aimer, pour nous convertir, pour voir le beau et le bon qui existe en chacun d'entre nous. Alors, nous ne sommes pas là pour faire l'éloge de la fragilité, hein. Vous savez, je sais très bien, quand un couple met au monde un enfant handicapé, il y a des séparations de couple, il y a même des suicides, il y a des choses atroces. C'est une évidence, c'est un mystère, c'est terrible. Et probablement que nous ne sommes pas suffisamment proches les uns des autres. Mais ces personnes, sans aucun doute, lorsqu'on les vit, le regard, un regard d'humilité, de proximité, de tendresse, elles évitent de me cacher devant des murs de supériorité. Comme on est beau en général quand on se raconte des belles histoires aux autres. Elles me guérissent, ces personnes, de ce réflexe de pouvoir, me fait entrer dans la joie, la vraie joie. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Oui, réjouis-toi. En passant par la croix. Réjouis-toi en passant par la croix. La joie chrétienne est toujours une joie pascale. La joie chrétienne est toujours une joie pascale. Et on a du mal à mettre des mots là-dessus. Hein? Alors, à Foi et Lumière, bon, c'est un mouvement avec lequel on a animé, avec Pasquier, Véronique et d'autres ici. On chante souvent ce chant. On pourrait chanter ensemble d'ailleurs. Je te bénis, mon Créateur, pour la merveille que je suis. Tous ces trésors au fond de moi que tu as fait sans faire de bruit. Je te bénis, mon Créateur, pour la merveille que je suis. Tous ces trésors au fond de moi que Dieu a mis sans faire de bruit. On se lève. Je te bénis, mon Créateur, pour la merveille que je suis. Tous ces trésors au fond de moi que tu as mis sans faire de bruit. Et puis on pourrait dire, en se retournant vers le voisin, je te bénis, mon Créateur, pour la merveille que tu es. Tous ces trésors au fond de toi que Dieu a mis
Merci.
Ouais, je revois la phrase de Gabriel Planchez. Dieu n'aime pas tout le monde. Voilà, il dit. Dieu n'aime pas tout le monde. Alors c'est bien, on est un peu choqué. Il dit, il aime chacun comme une personne humaine. Voilà. Donc la personne handicapée me fait découvrir la miséricorde, tu comprends. Je pense que je suis capable d'aimer des personnes mal foutues, tortueuses, tout au moins certaines. Et je me dis que si moi, Jean-Marie, je suis capable d'aimer des personnes tortueuses, combien plus Dieu est capable d'aimer ces personnes ? Et si Dieu est capable d'aimer ces personnes tortueuses, pourquoi Dieu ne m'aimerait pas comme une personne unique ? Voyez-vous, on rentre dans un cercle vertueux où on rentre dans le beau et dans la joie de découvrir la beauté de chacun. Voilà. Alors elles sont la nourriture de ma vie, les Philomène, les Mathieu, les Élie, les Julie, les Bruno, les Alex, les Louis. Voilà. Et plus la personne est tordue, c'est terrible à dire, hein, plus on revient en disant c'est de la nourriture pour moi. Une belle nourriture, 160 ans. Plus la vie de ces gens-là est tordue. J'étais avec Béatrice, on allait à Lourdes, enfin on préparait Lourdes, et bon, elle est avec une dame qui est à l'arche, mais voilà, elle est pas autonome, c'est tout. Et elle me disait, mais ma nourriture, Jacqueline, Alex, Louis, tu vois, dans leur fragilité, dans... Waouh, ça... On revient en disant, mais c'est pas possible, on n'est plus pareil. On ne peut pas sortir indemne de cela. La faiblesse qui est source de force, nourriture. Voilà, quand je dis dans mon Notre Père tous les matins, dans les dizaines de Notre Père tous les matins, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Mais quel est ce pain ? Quel est ce pain ? Alors d'abord, c'est le pain du boulanger. Hein. Si on l'oublie, c'est scandaleux pour 1 milliard de personnes dans le monde qui n'ont pas de pain. Le premier pain, c'est le pain du boulanger. Mais après ma nourriture, oui, la Bible, tout ça, voilà, la parole de Dieu, et je dis, que serais-je aujourd'hui sans l'accueil de ces personnes en situation de handicap que Chantal et moi avons accueilli ? Que serions-nous ? Chantal a... ça commençait Dieu, il y a 20 ans, hein. Julie n'était pas encore interne, donc Chantal allait conduire Julie à l'autobus, là, au dernier saut à Boulogne, et elle disait toujours, qu'est-ce que tu disais Chantal, tu t'en souviens ? Tu t'en souviens pas ? Si, c'est mon rayon de soleil, tu disais, c'est mon rayon de soleil, de voir tous ces gens qui descendaient la rue Maquetra. Oui, ce sont des nourritures, et ça a été voulu par Dieu. Curieusement, mystérieusement, certains peuvent s'en révolter, hein, bien sûr. Ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. Ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que... Tu nous le rechantes encore. Vas-y, rechante encore une fois. Allez, debout. Allez. Si.
Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce qu'il y a de faible.
Voilà. Voilà, voilà. Merci. On peut applaudir Jacqueline. Alors, non seulement Dieu a choisi des faibles, mais il s'est fait lui-même faible. On a entendu, on l'a chanté, hein. Regardez l'humilité de Dieu. Un Dieu... Tout-puissant, créateur, qui qui a choisi de prendre notre condition humaine. Notre religion est folie. Moi, je le dis toujours, dans toutes mes conférences, la religion chrétienne est une religion folie parce que c'est une religion de chair et de sang qui va jusqu'à la croix.
Alors, ça peut choquer certains, bien sûr. Hein.
Mais quand on dit ça, si le langage de la foi est folie, la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Si vous voulez les références, c'est dans les Corinthiens. Hein. 1 Corinthiens 25, 1 Corinthiens 1 Corinthiens 1, 25, 1 Corinthiens 1, 27, 25, 27, si vous voulez. Hein. Et je ne peux pas ne pas vous lire ce texte qu'on a dans les Philippiens au chapitre 2, qui est la kénose, c'est-à-dire l'abaissement du Christ. Hein, on connaît. Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur une croix. Jésus a pris la dernière place. Il s'abaisse à notre hauteur. Il nous bénit en permanence. C'est la miséricorde. Miséricorde, on peut traduire corde, cœur, miséricorde, misère pour miséricorde. Donc c'est miséricorde, ça veut dire le cœur de Dieu qui nous rejoint jusque notre condition humaine, jusqu'à notre prière. Je rappelle que dans le livre de Saint Jean, il n'y a pas d'institution d'Eucharistie, mais c'est remplacé par le lavement des pieds où Jésus se met aux pieds de ses disciples. Et il lave même les pieds de ses ennemis, de celui qui va le livrer. Voilà. Oui, Dieu a pris cher. Alors, quand est-ce que Dieu a pris cher, tout le monde fait ? Qu'est-ce que vous répondriez à ça ? Quand est-ce que Dieu s'est incarné ? En quelle fête ? Qu'est-ce que vous osez dire ? En quelle fête on fête l'incarnation de Dieu. Alors il y a tout, il y a Pâques, Noël, machin chouette. Hein ? L'Annonciation. Voilà. Ce n'est pas Noël. Hein. Mais vous vous rendez compte ? Oui, effectivement, c'est l'Annonciation. Vous rendez compte que Dieu a pris la condition d'embryon. Il ne faut pas s'étonner que l'Église insiste sur les respects que nous sommes du plus petit âge, enfin de notre état intra-utérin jusqu'à la mort. Quelle que soit notre condition, l'Église insiste sur le respect. L'infiniment grand s'est fait infiniment petit. Dieu est puissamment faible. Dieu est puissamment faible. Mais il faut être fort, il faut être puissant pour accepter d'être faible, sans aucun doute. C'est plus facile se montrer fort comme ça, apparemment, que d'accepter la fragilité. Je fais partie des relations islamo-chrétiennes. Nous avons des réunions avec les musulmans de Boulogne. Et j'aime toujours le dire, parce qu'ils ont une très grande idée de Dieu, les musulmans, une très très grande idée de Dieu. Et j'aime citer ce mot en hébreu, qui est le mot « rahamim », « rahamim », qu'on peut traduire par « entrailles »,« utérus »,« miséricorde ». Voilà. Parce qu'eux aussi, ils ont la miséricorde. Hein. Il faudra qu'ils nous expliquent un jour ce que ça veut dire la miséricorde pour les musulmans. Tous les sourates commencent par « Ô Dieu clément et miséricordieux hein. ». Et j'ai proposé qu'on ait une réunion avec eux pour qu'on travaille ce terme de miséricorde. Mais quand je leur dis aux musulmans que Dieu a pris
l'état d'embryon à ce niveau-là, ils ne peuvent pas comprendre. Il n'y a que les chrétiens qui essayent de comprendre. Et entrailles, utérus, miséricorde, c'est le même mot. En hébreu, la traduction du mot hébreu, rahamim, c'est le même mot. Entrailles, miséricorde, embryon, utérus, tout ça, c'est le même mot. Autrement dit, la miséricorde de Dieu s'est fait chair en Marie dès la première cellule. Voilà, le respect de la fin, du début à la fin, la foi repose sur la fragilité.
J'ai encore un peu de temps ou quoi? Oui, ça va.
5 minutes. Bon, bah, tu me dis, voilà, il ne faut pas que j'exagère. Alors, je vous fais une deuxième réflexion, puis ça peut aller vite. Hein. Sophie Lutz, je ne sais pas si certains d'entre vous sont abonnés à la revue Ombre et Lumière, mais il y a toujours un petit commentaire, un petit éditorial de Sophie Lutz, qui a un enfant terriblement polyhandicapé, mais terriblement handicapé, où les gestes techniques, sont dans son dernier numéro, elle en parle, elle a dit, mais ça envahit notre journée tellement c'est compliqué. Hein. Et je vais vous lire un peu ce qu'elle met dans un de ses derniers éditoriales. Elle fait le lien entre la personne très handicapée et l'hostie consacrée. C'est original. Et le titre, c'est « Je suis exposé au regard ». Alors, la maman de Philippine parle et elle dit « Pas simplement son visage, son corps, et pas simplement dans l'intimité des soins que sa dépendance occasionne, mais à longueur de temps, le handicap de son corps attire ou accroche le regard. » C'est évident. La personne dont le handicap est très visible affronte des regards qui peuvent lui donner le sentiment qu'elle n'est pas complètement protégée. Elle ne peut pas cacher ses faiblesses ou les garder pour elle. Cependant, dit-elle, ce qui m'a particulièrement marqué à la lecture de la réflexion de Marie-Caroline, qui est l'auteur de ce livre, c'est qu'elle choisit de considérer cette exposition du corps handicapé comme une mission. Marie, il faut le faire. Hein. Elle choisit de l'accepter pour que cela parle aux autres. Comme chrétienne, je ne peux m'empêcher de remarquer une similitude de vocabulaire. On parle beaucoup de corps dans le christianisme et on parle d'exposition du corps du Christ dans le Saint-Sacrement. Exposition d'une personne très handicapée avec l'exposition du Saint-Sacrement. J'ouvre une parenthèse à l'offertoire quand le prêtre montre la présence réelle du corps du Christ et que j'entends des personnes handicapées crier. Elle nous rappelle où se trouve ce corps du Christ. Et Philippine et celle-là, dans l'église Saint-Martin, ça lui arrive de crier. Et à Lourdes, à l'exposition du Saint-Sacrement, il y avait Maria qui ne fait que crier. À la fin, j'étais la remercier. En lui disant « Merci Maria », elle parle pas, mais je parle à sa maman, « Merci Maria, parce que tu me fais croire vraiment où est ce corps du Christ dans ce monde tortueux dans lequel nous sommes. » Alors je continue et j'explique. En fait, dans l'hostie, Dieu est très handicapé. C'est original. Dans l'hostie, Dieu est très handicapé. Déjà pour un pur esprit, prendre un corps est un handicap, à plus forte raison, se faire morceau de pain, doublement handicapé. Dieu prend un corps dans un morceau de pain. Quand nous regardons l'hostie, nous contemplons le handicap choisi de Dieu, son anéantissement par amour. Les théologiens appellent cela la kénose, je l'ai lu tout à l'heure. Aucun être humain ne choisit d'être handicapé, mais chaque personne handicapée est amenée à choisir comment elle va vivre l'exposition de son corps au regard. En donnant du sens à l'exposition de son corps, Marie-Caroline m'a aidé à comprendre pourquoi on expose le Saint-Sacrement. Et quel sens cela peut avoir? Méditer sur le corps des personnes handicapées, c'est approfondir le mystère de Dieu. Méditer sur le corps de Dieu, c'est renouveler ma compréhension du handicap.
Ma foi est transformée par ma fille handicapée. Ce qui est pauvre, abîmé ou simplement petit en nous est sacramentel. Présence réelle du Christ. Notre pape, sans arrêt, en parlant des personnes mal foutues, disent « C'est le corps du Christ, le corps du Christ !» C'est-à-dire en visible qui nous sommes vraiment, des pauvres assoiffés d'amour. Les parties du corps qui paraissent les plus délicates sont indispensables, et celles qui passent pour moins honorables, ce sont elles que nous traitons avec le plus d'honneur. Je peux terminer tout simplement par le texte de saint Paul, et j'arrêterai là si vous désirez. L'introduction, on peut dire, nous avons été baptisés dans un esprit pour être un seul corps. Quand le prêtre dit « ceci est mon corps », c'est pas simplement l'hostie, c'est l'assemblée. L'assemblée est corps du Christ. Alors je lis, je terminerai là. Dieu a disposé dans le corps chacun des membres selon sa volonté. Si l'ensemble était un seul membre, où serait le corps? Il y a donc plusieurs membres, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, même les membres du corps qui paraissent les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous tenons pour les moins honorables, c'est à eux que nous devons faire le plus d'honneur. Y parler du corps que nous sommes.